l'émission de la maison sur Radio Évasion au temps du coronavirus. Vous nous écoutez sur le 100.4 FM du lundi au vendredi à midi et c'est rediffusé à 18h. Vous le savez, les musées sont malheureusement fermés et c'est d'autant plus dommage que beaucoup auraient dû ouvrir de nouvelles expositions en ce printemps. Ceci dit, leurs équipes continuent à travailler et à diffuser les connaissances par d'autres moyens. Aujourd'hui, notre émission est largement consacrée au musée de l'ancienne abbaye de Landévennec, qui a pour intention de nous régaler. La prochaine expo sera consacrée, en effet, à un sujet des plus brûlants et croustillants, les crêpes et les galettes. Au départ de ce sujet, il y a les découvertes des archéologues. Guénolé Ridoux, commissaire d'exposition et médiateur du musée.
En fait, c'est une exposition qui s'appuie sur les collections du musée de l'ancienne abbaye de Landévennec. Parce que en 2015, on a fait des analyses sur des plats en terre cuite, des galetières qui ont été retrouvées par les archéologues, et donc effectivement qui étaient des objets identifiés à des galetières, et on a mené des recherches en fait pour vérifier cette identification, parce que les objets n'ont pas été livrés avec leurs étiquettes, et donc même si ça ressemble beaucoup à des anciennes poêles à crêpes, et ben c'est pas si facile que ça de le prouver, donc on a fait de ces recherches. Et ça nous a donné l'idée de faire une exposition sur l'histoire des crêpes en Bretagne. Et donc, c'est une histoire chronologique. Donc, ça part de ces galetières, en tout cas des enquêtes qui ont été menées autour d'elles. Et puis ensuite, on s'intéresse à la période entre le début de l'époque moderne, c'est-à-dire en fait entre le XVIe siècle et le XIXe siècle, qui voit vraiment apparaître ce qu'on appelle aujourd'hui, enfin ce qui ressemble à nos crêpes contemporaines. Et puis on termine par la crêpe aujourd'hui, c'est-à-dire comment est-ce que les restaurateurs, les particuliers interprètent la tradition de la crêpe aujourd'hui dans les foyers en Bretagne.
Donc vous êtes parti du 16e, mais est-ce qu'on peut quand même, enfin est-ce qu'il y a des archives ou des documents peut-être qui prouvent quand même que la crêpe et la galette, d'ailleurs je ne sais pas comment est-ce qu'on peut les distinguer, à partir de quand on les distingue, mais existent avant bien sûr, je suppose.
Ouais, alors il y a deux questions. La première sur la date de l'apparition des crêpes, à partir de quand est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on consomme des crêpes régulièrement en Bretagne. On a effectivement quelques textes. Alors c'est très partiel en fait. Il faut bien voir que comme c'est un plat populaire et que les auteurs qui écrivent les textes en général, ils sont plutôt liés au pouvoir. Hein. Il y a des gens qui sont soit très érudits, soit qui travaillent pour les seigneuries, ils s'intéressent pas beaucoup à ce que mange le peuple. Et donc du coup, effectivement, les informations sont pas très fréquentes. Alors heureusement, il y a quelques textes de linguistes notamment. Dans les dictionnaires, les anciens dictionnaires en breton, notamment le plus ancien de ces dictionnaires en breton qui s'appelle le Catholicon, qui a été écrit par Jean Lagadec et dans lequel on parle de crampouaise, de crêpe. Et alors, il n'y a pas beaucoup d'informations dessus, mais il nous dit quand même qu'il y a un objet spécial qui s'appelle le skidsen crampouaise. Et en fait, le skidsen, les auditeurs bretons le savent, c'est en fait ce qu'on appelle aussi le spanel aujourd'hui. Et donc, ça veut dire qu'à cette époque-là, on a déjà tout un outillage autour de la crêpe. Et donc là, on est très tôt, on est au milieu du 15e siècle.
C'est l'outil en bois pour étaler la pâte, hein,
Alors, le spanel, c'est l'outil en bois pour retourner la crêpe. Et le rosel, c'est l'outil en bois pour tourner la crêpe. Alors, le rosel, lui, on a des informations un peu plus tard sur lui. Ça vient plus tard. Mais bon, on ne peut pas non plus espérer des lexicographes qui nous donnent toutes les informations qu'on voudrait au moment où on voudrait. Mais ça nous donne quand même une première date, comme ça, pour l'apparition des crêpes en Basse-Bretagne. Pour ce qui concerne l'histoire des crêpes et des galettes, en fait, c'est quelque chose qui arrive assez tôt, puisque en fait, dès le XVIIe siècle, on a des textes qui sont assez nombreux en Haute-Bretagne qui parlent de galettes, en général, qui sont faites avec du sarrasin. Alors la grosse difficulté, c'est de savoir exactement quelle est la différence entre les crêpes et les galettes, parce que les textes nous disent surtout au 18e, 19e, que c'est très différent, sauf qu'ils ne disent pas vraiment ce en quoi c'est différent. Ce qu'on comprend, c'est que pour beaucoup d'auteurs, en fait, ça repose plutôt sur l'épaisseur. C'est-à-dire que ce qui est important au 19e, quand on distingue la crêpe de la galette, c'est de dire que la crêpe est plutôt fine, alors que la galette serait plutôt épaisse.
Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que la particularité quand même des crêpes et galettes bretonnes aujourd'hui, c'est d'être très fines, parce que sinon des galettes de céréales, il y en a eu de tout temps, il y en a dans tous les pays en fait, mais elles sont souvent plus épaisses.
Alors absolument, effectivement, l'une des particularités de la crêpe bretonne, c'est effectivement la finesse. Alors en fait, ça tient à autre chose qui fait vraiment cette fois-ci la particularité de la crêpe en Bretagne, c'est la manière de la tourner. C'est-à-dire qu'en fait, dans beaucoup de civilisations, vous avez raison, il y a des crêpes, et encore aujourd'hui, hein, sur plein de continents, il y a des crêpes, parfois qui ressemblent vraiment même beaucoup à des crêpes bretonnes, du même diamètre, à peu près de la même épaisseur, soit un peu plus épaisse, effectivement. Par contre, ce qui est particulier, c'est qu'en Bretagne, on utilise, que ce soit en Haute comme en Basse-Bretagne, on utilise un poêle sans manche. Et on tourne la crêpe avec un rosel, justement le petit instrument en forme de râteau là qui permet d'étaler la pâte. On ne fait pas sauter les crêpes en Bretagne. Et ça, en fait, ça distingue assez nettement la crêpe des autres manières de faire des crêpes dans le monde. Alors, et puis aussi des autres manières de faire des crêpes en France, parce que en France, il y a eu des crêpes de sarrasin dans plusieurs régions ailleurs qu'en Bretagne. Il y en a eu en Normandie, il y en a eu en Auvergne, il y en a eu dans le Limousin. Des traditions culinaires qui sont bien établies, mais par contre, dans toutes ces régions, on faisait des crêpes avec des poêles à manche, alors qu'en Bretagne, on les faisait sans manche. Et comme on a cet instrument pour étaler la pâte, et ben effectivement, on peut aussi obtenir des crêpes qui sont effectivement assez fines.
Et sur l'outil, vous avez évoqué, donc d'abord les galetières, c'était des poêles, et puis quand est-ce que, par exemple, le bilic est apparu, est-ce qu'on le sait d'ailleurs?
Effectivement, la poêle à crêpes, alors nous, justement, c'est pour ça qu'on s'intéresse à l'archéologie, puisque ça nous donne un peu des indications, et ces éléments archéologiques, là, ils apparaissent à partir du XIe siècle. C'est-à-dire qu'à partir du XIe siècle, on a des grands plats en terre cuite, qui ont un rebord qui est assez peu élevé, un petit rebord quand même, qui est 2-3 cm, mais par contre, qui font jusqu'à, en diamètre, jusqu'à 40 cm, et en fait, on est très proche de la taille d'une bilic contemporaine. Ensuite, ça va évoluer. On voit apparaître dans les textes des objets, enfin des poêles à crêpes en fer, qui sont cités notamment, encore une fois, dans les dictionnaires de breton, où on va nous dire, on va donner la définition de ce que c'est qu'une poêle à crêpes. On va dire, par exemple, c'est ce qu'on a chez Grégoire de Restrénan, donc au début du XVIIIe siècle, il nous dit une poêle à crêpes, c'est un outil en fer. Ou alors en pierre, ou alors en brique, c'est-à-dire en terre cuite. Donc à cette époque-là, sans doute, on a encore des poêles en terre cuite. Et puis à la fin du XVIIIe siècle, en fait, on commence vraiment, on ne parle plus que de poêles en pierre, et là, on les appelle biliques dans les textes, dans les dictionnaires en breton, donc on est déjà sur l'ancêtre de nos biliques contemporains. Et puis ensuite, ça va continuer à évoluer, évidemment, et au XXe siècle, surtout, c'est là qu'on va avoir les plus grosses évolutions, on va voir apparaître le bilic à gaz et puis ensuite le bilic à résistance électrique à partir de la seconde moitié du XXe siècle.
Et l'exposition, je suppose, présente différents objets, enfin différents outils liés aux crêpes.
Exactement, en fait, on présente ces outils et puis on les présente aussi en fonction de leur contexte parce que chaque période a son outil, si vous voulez, et chaque période a ses histoires et ses manières de voir les crêpes. En fait, on n'a pas du tout la même manière de voir les crêpes aujourd'hui qu'on avait au XIXe siècle. Il faut bien s'imaginer que la crêpe, elle a bénéficié quand même de l'essor de la culture, par exemple, du sarrasin. Donc, c'était vraiment pas du tout une culture qui était très valorisée sur les marchés, par exemple. C'était plutôt une culture vivrière. Donc, du coup, c'était une... on faisait ça avant de cultiver d'autres céréales, mais on gardait la récolte du sarrasin pour la famille. Donc c'était le plat du pauvre, en fait, en quelque sorte, la crêpe. Et puis ensuite, aujourd'hui, c'est complètement différent, bien sûr. On a beaucoup moins de culture de sarrasin en Bretagne, et donc en fait, la crêpe, c'est quelque chose qui est devenu plus traditionnel, vers lequel on va parce qu'on y est attaché sentimentalement, et puis aussi, du coup, c'est le support d'innovation culinaire, parce qu'on s'intéresse au goût, cette fois-ci, plus du sarrasin que à ce que ça nous permet, qu'à la survie de la population.
Et à propos de goût cette fois, puisqu'on a parlé pas mal des outils, et donc sur les recettes, est-ce que vous en avez trouvé déjà? Et puis, lesquelles?
Alors effectivement, alors des recettes de crêpes, à proprement parler, c'est pas si facile, parce que vous savez qu'encore aujourd'hui, dans les familles bretonnes, parfois la recette reste secrète, donc du coup, dans les textes anciens, c'est encore pire, c'est encore plus difficile d'avoir la recette exacte. Par contre, on a des choses qui sont quand même assez intéressantes sur la composition de la pâte. Et par exemple, il y a pas mal d'auteurs qui nous disent qu'en fait, il y a beaucoup de crêpes. La plupart des crêpes sont au sarrasin, mais que, des crêpes et des galettes sont au sarrasin, mais que, les Bretons, ils prennent un peu tout, en fait. Par exemple, au 19e siècle, on nous parle de l'utilisation de l'avoine pour faire de la pâte à crêpes. Dans les années 1840, il y a un voyageur à Plomodierne qui se plaint du fait qu'on le nourrit seulement avec des crêpes à l'orge. C'est des choses qui nous paraissent assez surprenantes aujourd'hui, mais en fait, évidemment, comme c'était un plat de subsistance, on utilisait les cultures qui existaient localement, et donc si on avait du sarrasin, on consommait du sarrasin dans les crêpes, mais sinon, on pouvait aussi avoir de l'avoine et de l'orge. Et puis l'autre aspect, c'est la question des garnitures. Et là,
bah oui, c'est ce que j'allais demander.
Et là, c'est toute une histoire. Parce qu'en fait, la crêpe, elle a été consommée un peu comme on consommait ailleurs le pain. D'ailleurs, les auteurs le disent souvent. Ils disent, bon, bah, en Bretagne, il n'y a pas de pain, mais en fait, on mange de la crêpe à la place. Alors, c'est pas vrai pour partout. Hein. Évidemment, il y avait, on voit encore aujourd'hui dans les campagnes bretonnes, il y a des fours à pain. Il y avait du pain au XVIIIe siècle en Bretagne. Par contre, c'est vrai que comme le pain, ça demande du froment, que le froment, ça pousse, enfin, des farines qui soient panifiables et que ça coûte plus cher, c'est plus difficile à obtenir. La crêpe, c'était quand même l'avantage d'avoir, de permettre de consommer une farine non panifiable, donc le sarrasin, donc c'était moins cher pour ça. Et puis aussi, ça a besoin de moins de combustible, enfin moins de gros bois que le pain. Et donc, du coup, effectivement, ça pouvait, pour les familles les plus pauvres en particulier, remplacer le pain. Et du coup, on la consommait comme on consomme le pain. C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait la conserver assez longtemps, la crêpe, hein, pendant une semaine, de ce que nous disent les textes. Et puis, on la coupait en morceaux, on la trempait dans la soupe, on mettait parfois un morceau de beurre, comme nous, aujourd'hui, on consommerait du pain beurre. On mangeait avec de la viande, s'il y avait de la viande, mais c'était pour, enfin, vraiment comme on, voilà, comme un, comme, tout à fait de la même manière, on consomme du pain. Dans les campagnes bretonnes au 18e. Et puis ensuite, on va commencer à voir apparaître des garnitures un peu plus élaborées, notamment autour des crêperies qui vont se développer. Et là, on va avoir les premières choses qui apparaissent, en fait, c'est l'œuf que l'on fait cuire sur la crêpe. Donc ça, c'est assez ancien. Et puis ensuite, ça va surtout vraiment se développer à partir du début du 20e siècle. Et là, on va avoir apparaître toutes les garnitures qu'on connaît aujourd'hui.
Mais il y avait des crêperies avant le XXe siècle.
Ah oui, alors les crêperies, et ben encore une fois, pour se faire un peu une idée, il faut comparer à ce qu'on a pour le pain. C'est-à-dire que de la même manière qu'on a des boulangeries, ben on avait des crêperies qui fournissaient des crêpes. Et alors, en particulier, on va les retrouver dans les villes, parce que ben, dans les villes, les habitants n'ont pas forcément une grande cheminée qui leur permet de faire des crêpes, et donc du coup, ils vont aller acheter des crêpes chez la crêpière, et c'est souvent des crêpes à emporter, en tout cas dans ce qu'on a comme information. On sait qu'il n'y avait pas beaucoup de tables dans ces crêperies-là, donc du coup, c'est des crêpières qui faisaient plein de crêpes, qui les vendaient comme ça. Et donc, par exemple, à Quimperlé, au XVIIIe siècle, on a trois crêpières au milieu du XVIIIe siècle qui sont citées dans les textes. Il y en a beaucoup à Rennes, il y en a aussi à Quimper, enfin voilà, dans les villes. Et ensuite, bah, c'est pareil, l'histoire des crêperies, c'est tout un sujet en soi, mais ensuite, ça va se développer. Au début du 19e siècle, on commence à avoir en tout cas, il y a un crêpier qui s'appelle Pogan à Rennes, qui devient très célèbre, qui vend d'abord des crêpes aux Prussiens qui occupent la France. Et puis ensuite, il fait des tables, etc. Il devient très connu dans Rennes. Il est connu justement pour sa crêpe à l'œuf. Et alors lui, sa particularité, c'est qu'il a des tables et surtout qu'il sert à boire. Et donc du coup, il y a toute une ambiance qui se crée autour de la crêperie de Pogan. Et en fait, il est très apprécié par les Rennais. Il y a des articles dans les journaux sur son établissement. Et puis à partir de là, ça va continuer à se développer. Alors surtout, en fait, après le grand événement pour l'histoire de la crêperie, ça sera l'immigration bretonne à Paris. Et puis le fait que bah, les Bretons se réunissent dans des cafés dans lesquels ils sont ensemble. Et dans ces cafés, on sert à boire, mais on sert aussi des crêpes. Et puis ensuite, on va voir apparaître au début du XXe siècle, en fait surtout dans l'entre-deux-guerres, la crêperie, enfin l'ancêtre de la crêperie telle qu'on la connaît aujourd'hui, dans laquelle en fait on a vraiment des tables, on a des serveurs qui viennent, qui sont parfois habillés d'ailleurs en costume breton et qui proposent plusieurs garnitures sur les crêpes. Dans l'exposition, on s'est intéressé aux crêpiers qu'on a autour de nous, que les visiteurs peuvent rencontrer. C'est-à-dire, par exemple, on interroge la crêperie La Frégate, on interroge la crêperie de Saint-Nic, le Soleil Breton. Mais effectivement, c'est aussi assez intéressant la manière dont, en fait, aujourd'hui, on va acheter les crêpes dans les grandes surfaces, un peu de la même manière, finalement, des crêpes, ces crêpes à emporter, là. Qui sont très particulières à la Bretagne, un peu de la même manière qu'en fait au XVIIIe siècle on allait acheter du pain, on achetait des crêpes chez la crêpière à emporter. En fait, ça reste en fait, ça s'inscrit assez bien dans cette tradition de la crêpe qui remplace le pain, finalement, ce qu'on a aujourd'hui dans les supermarchés.
Et Guénolé Ridoux a travaillé avec Cécile Bourget, qui l'été dernier, puis en automne 2019, est allée rencontrer les Finistériennes et Finistériens à propos de leurs souvenirs crêpiers. Et c'est Carole Derrien-Lefaucheur qui a interviewé Cécile Bourget.
Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi de faire des témoignages audio? Parce que c'était le plus simple pour nous, pour partager les expériences. Il n'y avait pas besoin de compétences extraordinaires pour enregistrer les gens. Donc, dans un premier temps, l'idée, c'était ça, de faire des enregistrements. S'ils étaient de bonne qualité, de pouvoir les diffuser. L'enregistrement, ça a aussi l'avantage de pouvoir les réécouter. Et pas... alors, pour certains, c'est des gens qu'on connaît, qui travaillent. On a commencé, par exemple, avec les bénévoles du Musée des Vieux Métiers à Argol. Comme ils animent des ateliers crêpes, voilà, notamment sur des vieux poils en granit, bah, du coup, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de commencer par eux, par la proximité, tout ça. Et aussi, comme c'est une ancienne abbaye, qui est encore un monastère aujourd'hui à Landévennec, on voulait aussi commencer par interroger les moines, voilà, avec leurs expériences. Comme il y en a qui sont aussi assez âgés, bah, du coup, on pouvait avoir des expériences qui dataient d'il y a un certain temps maintenant, donc ça pouvait être intéressant. Et puis en plus, il y en a qui viennent d'un peu partout en Bretagne, donc il y avait cette proximité-là qui était intéressante. Et ensuite, c'est au fur et à mesure de nos recherches, voilà. Puis il y en a aussi des professionnels qu'on aurait voulu interroger, par exemple, et qui n'ont jamais répondu. Par exemple, on aurait bien aimé interroger le président de l'association de la sauvegarde de la galette saucisse en Ille-et-Vilaine, et on n'a jamais eu de nouvelles. Donc voilà, c'est un peu des recherches de personnes comme ça qu'on a contactées. Et voilà. Et sinon, c'est des personnes qu'on connaissait et pour lesquelles on savait qu'elles avaient des choses intéressantes. Il y en a aussi des fois qui nous ont dit, pendant les entretiens, « Ah, bah, je connais telle ou telle personne qui a telle ou telle chose à raconter au sujet des crêpes. » Et du coup, on est rentré en contact avec eux comme ça.
Et je me demandais, toutes les générations sont représentées?
Les personnes les plus jeunes que j'ai interrogées, c'était au marché des Lys. J'ai interrogé des consommateurs aussi de galettes et de galettes saucisses à Rennes. Donc là, il y avait des adolescents et des adolescentes. Mais sinon, la personne la plus âgée que j'ai interrogée, elle a 96 ans au Musée des Vieux Métiers. Donc voilà, c'est... On va dire que quand même, parmi les gens qui vont être diffusés, ils ont entre 40 ans et 96 ans.
Et d'où viennent-ils tous ces gens, du coup, uniquement de Bretagne ou d'ailleurs ?
Alors, la plupart viennent de Bretagne. J'ai interrogé des Bretons aussi qui ont eu leurs grands-parents en Bretagne ou qui passaient leurs vacances en Bretagne. Des personnes qui ont grandi à Paris, qui venaient dans le coin pour les vacances. Et sinon, des locaux, voilà. Donc, je suis allée à Bénodet, je suis allée à Fougères, à Rennes. Je suis allée aussi à Angers pour interroger quelqu'un dont les grands-parents habitaient Scrignac, donc dans les Monts d'Arrée. Voilà, je suis allée un petit peu dans le Morbihan aussi, voilà, principalement en Bretagne quand même, même si on va parler des crêpes partout dans le monde.
Quelles questions vous avez posées à ces personnes-là ?
J'ai posé plein de questions qui pouvaient varier aussi selon le profil de la personne, professionnel, amateur. Voilà, donc ça pouvait être des questions sur leur enfance, qui faisait des crêpes quand ils étaient petits, comment est-ce qu'ils ont appris à faire des crêpes, est-ce qu'ils ont appris d'ailleurs à faire les crêpes, parce qu'il y en a certains qui n'ont jamais appris qu'en manger quand ils étaient petits, mais qui savent absolument pas les faire. Des questions sur les outils dont il y a besoin pour faire des crêpes, des questions un peu sur leurs secrets de fabrication, sur l'endroit où ils préparaient les crêpes, sur les ingrédients utilisés, est-ce que c'est de la farine de froment, de la farine de sarrasin, les deux, aucun des deux, est-ce qu'il faut des œufs ou pas. Plein de choses comme ça. Voilà, plein de questions sur différentes thématiques, voilà, qu'on a un petit peu travaillées avant.
Est-ce qu'il y a des réponses qui vous ont surprises ou des anecdotes qui vous ont marquées ?
Oui, ou alors des choses dont on ne m'a pas parlé, mais que j'ai vues. Par exemple, j'ai vu un crêpier pour graisser ses plaques utiliser un gant de toilette. Donc c'est un outil un peu surprenant. Je m'attendais absolument pas à voir ça. Donc ça, c'était assez étonnant. Sinon, objet assez rigolo ou étonnant, j'ai vu aussi des objets qui provenaient de l'armée allemande, qui servaient de mesure, en fait. C'était la mesure idéale pour mettre la pâte à crêpe dedans et verser sur la crêpière. Et c'était la dose idéale de pâte pour faire les crêpes. Sinon, en histoire étonnante... Donc il y a quelqu'un qui nous racontait qu'à Scrignac, ses grands-parents faisaient des crêpes de quasiment 60 cm de diamètre, d'un centimètre d'épaisseur, et que c'était conservé sur une étagère fixée aux poutres et que ça servait un peu de pain toute la semaine, mais en fait c'était comme une crêpe très 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 épaisse.
Est-ce que vous avez rencontré des contraintes de muséographie liées donc au format audio ?
Oui, et d'ailleurs pour l'instant la question elle est pas encore résolu. On ne sait pas exactement comment on va faire parce qu'il y a beaucoup d'heures d'enregistrement et même si on a découpé vraiment les passages qui nous intéressaient, pour l'instant, il y a quand même 3 heures d'enregistrement, donc c'est vraiment beaucoup. Du coup, on ne sait pas encore si on va mettre des petits boutons pour que les gens puissent choisir s'ils vont écouter tel ou tel extrait et pas tel autre, ou si on va laisser diffuser en boucle sans laisser le choix aux auditeurs et tout ça. Donc pour l'instant, le matériel, on ne sait pas trop comment ça va se passer. C'est assez contraignant pour des questions de budget, même. On ne sait pas trop si on va mettre des cloches, des casques, voilà, il y a plein de contraintes comme ça. Pour l'instant, on ne sait pas exactement.
Et comment vous avez sélectionné, du coup, les extraits pour l'exposition ?
Alors, on a essayé d'avoir, du coup, des témoignages les plus diversifiés possibles. N'essayer de pas entendre 2 fois la même chose. Par exemple, l'anecdote des crêpes mangées le vendredi, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu pendant les entretiens. On a essayé de pas choisir cet extrait-là 10 fois pour 10 enregistrements, 10 témoignages différents, quoi. Donc voilà, on a essayé d'avoir des choses à la fois les plus représentatives possibles et les plus singulières possibles pour présenter dans l'exposition.
Une mère crêpière et bénévole au Musée vivant des vieux métiers, où elle anime des ateliers crêpes, Florence Lecoz offre son témoignage à l'exposition.
Est-ce que votre père, il faisait des crêpes aussi ?
Non, 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 il faisait pas de crêpes. Je pense qu'il aurait... Comme ma mère tenait la crêperie, il aidait beaucoup autour, à la plonge, ou garnir même les crêpes. Pas le service, hein, surtout pas lui, surtout pas le service. Mais donc il était très présent pour la crêperie, mais non, il faisait pas les crêpes. Et de mes frères, du coup, parce qu'on a tous vu ma mère faire des crêpes, et moi je n'en ai fait qu'à partir du moment où elle a décidé de faire une crêperie, c'est-à-dire très tardivement, elle avait plus de 60 ans. J'ai jamais vu quand on faisait dans ce petit recoin là, mes frères ou moi, elle nous apprenait pas, enfin, il n'y a pas eu la transmission à ce moment-là. C'est plus quand elle a décidé de faire une crêperie, on l'a aidée, enfin, moi, beaucoup pour le service, et puis je m'y suis mis à faire les crêpes. Et ensuite, c'est mon frère qui a repris la crêperie. Sur les 5, on est 2 à faire des crêpes. Donc ma mère avait une petite combine aussi et que je passe comme message aussi, c'est d'ajouter dans le sein. On ne graisse pas au beurre, enfin moi en tout cas, enfin ni ma mère, c'est avec du sein doux. Et donc on rajoute du jaune d'œuf dans le sein doux pour que ça culotte en fait la plaque et que ça évite le sein doux, c'est pour éviter que la... que c'est pas une graisse qui brûle en fait, et donc du coup le fait de rajouter du jaune d'œuf, ça vous fait un glacis, c'est assez impressionnant tout de suite quand vous mettez ce mélange, ça la lisse très très bien, et donc ça évite que ça colle, quoi. Parce qu'il faut toujours trouver le juste milieu entre que ça colle pas, que ça adhère assez, enfin voilà.
Est-ce que les parties qui ne sont pas sélectionnées vont être archivées par la suite ?
Certaines, oui, on va les déposer aux archives départementales, a priori. On attend les autorisations des uns et des autres, mais normalement, c'est l'objectif, histoire que ce ne soit pas perdu, parce que c'est des témoignages vraiment intéressants, des habitudes qui se sont perdues, qui ont énormément changé. Donc oui, on va essayer de les archiver pour ceux pour lesquels c'est possible.
Est-ce que vous avez vous-même tiré des témoignages, peut-être dans des archives, justement, en lien avec les crêpes ?
Alors oui, on ne sait pas exactement pour les enregistrements audio si on va pouvoir les diffuser ou pas, mais j'ai écouté des choses notamment sur Dastum, voilà, qui est une base de données bretonne. Donc dessus, c'était surtout des chansons qu'il y avait sur les crêpes et les galettes en Bretagne, mais il y a quelques petits passages de quelques secondes de personnes qui racontent des histoires sur les crêpes et les galettes. Je suis aussi allée... à la Grange à Goule, à côté de Fougères, qui travaille aussi sur le patrimoine audio. Et voilà, ils vont enregistrer des personnes aussi pour parler de différents sujets. Donc les crêpes, ils ne l'ont pas encore fait, mais parfois dans leurs entretiens, il y a quand même des petits passages qui parlent de ça. Donc ils nous ont donné ça. Et sinon, on utilise aussi des archives plutôt visuelles, donc de l'INA ou alors sur YouTube, des choses comme ça qui nous ont pas mal servi aussi.
Pourquoi le thème des crêpes a été choisi pour la prochaine exposition ?
Alors, le thème des crêpes, il a été choisi parce que, en fait, le musée de l'ancienne abbaye, c'est un site archéologique. Il y a eu 30 ans de fouilles à peu près ici. Et parmi les objets découverts, il y a eu des fragments de plats en terre cuite qui ont été assimilés à des galetières. Mais comme on n'était pas sûr que ce soit ça, en 2015, il y a eu des analyses qui ont été faites en laboratoire pour voir un peu les traces de matière, de graisse, de choses comme ça qui ont été retrouvées dans le fragment. Et du coup, comme ça, on a vu que ça avait beaucoup intéressé le public, parce qu'il y a eu un crowdfunding pour pouvoir financer les recherches en laboratoire, du coup, ils se sont dit au musée que ce serait intéressant de pouvoir retracer cette histoire-là, parce qu'en fait, c'était aussi l'occasion de voir que l'histoire de la crêpe bretonne, en fait, la crêpe en Bretagne, elle n'avait jamais vraiment été faite. Donc c'était l'occasion de faire cette recherche et de tracer un peu cette historique de l'évolution du mobilier qui sert à faire les crêpes en Bretagne et aussi l'évolution des pratiques sociales qui y sont liées.
Bernard Hulin, lui, est le directeur du musée de l'ancienne abbaye de Landévennec. Il est aussi commissaire général de l'exposition et il revient sur la cuisine du projet.
On tenait un sujet, mais assez vite, je me suis dit, ce sujet, c'est un sujet pour la Bretagne. Et que pour le coup, on n'avait pas sujet à être seul pour le traiter. Moi, j'ai assez vite pensé à associer des collègues, à associer d'autres musées en fonction de leur domaine de compétences, en fonction de leur collection, en fonction de leur territoire, pour, en gros, leur proposer de nous dire chacun ce que la crêpe ou la galette, quand on parle du pays gallo, qu'est-ce que ça avait été sur leur territoire, quelle histoire, quel témoignage, quelle actualité. Les musées, eh bien, si tout d'abord l'écomusée des Monts d'Arrée, avec qui on travaille depuis que nous sommes fédérés dans le groupement d'intérêt public, la musée de territoire finistérien, donc l'écomusée des Monts d'Arrée avec ses deux sites, Comana, Saint-Rivoal. Ensuite, sont venus s'agréger le musée Bigoudin. Et là, on s'attend à avoir des témoignages très originaux sur ce qu'est la crêpe sur ce territoire-là. Ça va réellement être passionnant. Le musée départemental breton, qui va nous parler de l'histoire des crêperies en ville, à Quimper. Et puis le musée de Dinan, qui lui, vraiment l'intérêt de sa présence, c'est qu'il va nous parler de la galette. Il va nous parler de cette autre version de ce que l'on fait sur les biligues. Et qui finalement se distingue de la crêpe du Finistère. C'est une question d'épaisseur, c'est une question de cuisson, bien sûr, mais la galette, c'est quelque chose qui est moelleux, hein, c'est ce qui la caractérise, alors qu'ici la crêpe va plutôt être craquante, croustillante, et la galette, et on en parlera, nous, dans notre exposition, puisqu'on est allé enquêter jusqu'à Fougères sur le sujet, la galette, elle est moelleuse. C'est pour ça qu'on l'associe aujourd'hui à la saucisse, parce qu'on enroule la saucisse dans cette galette qu'on ne pourrait pas faire avec la crêpe qu'on réalise ici.
Je ne sais pas si vous aviez prévu à 5 des événements, conjoints ou des opérations conjointes, mais bon, là, c'est peut-être mis en question.
Il y a des choses conjointes et c'est vraiment intéressant de le souligner. Et c'est un programme de coopération qui nous a permis de solliciter des fonds européens, ce qui est assez exceptionnel pour des musées. Et donc, ces fonds européens vont nous permettre d'avoir des expositions avec, je dirais, une possibilité de fournir des médias tels que les vidéos, une qualité scénographique, une qualité de présentation qu'on n'aurait peut-être pas pu réaliser autrement. Et puis, ça nous a permis de faire une publication qui va paraître dans les semaines à venir, là au moment où, j'espère, on va être réautorisé à ouvrir, une publication de 120 pages qui va paraître chez Cobbrez, qui va paraître en français, qui va paraître en breton, et du coup, c'est une publication qui apporte un regard totalement nouveau sur le sujet, puisqu'on fait appel à des historiens, on fait appel à des archéologues, on fait appel à des ethnologues, et pour le coup, à côté du propos même des musées, d'ailleurs, Guénolé a écrit sa contribution pour Landévennec, mais à côté de ses contributions des 5 musées, on a donc différents auteurs qui viennent nous parler de l'histoire de la crêpe et de la galette. Et ça promet d'être passionnant, étant donné les textes que l'on a déjà en main.
Donc on peut participer, on peut contribuer au financement du livre. Alors,
voilà, on peut contribuer au financement du livre. On a lancé une campagne de financement participatif sur Kengo. On a atteint, là, pour le moment, un peu plus de 50% de l'objectif. L'objectif, c'est 4000 euros. On a franchi la barre des 2000. On a demandé à Kengo de prolonger la campagne. Et on invite toute personne intéressé par le sujet, à nous soutenir. Et j'ai donné une clé très simple. Lorsque l'on contribue à hauteur de 100 euros, on peut défiscaliser à hauteur de 66 euros en le déclarant sur ses impôts, et on reçoit en cadeau le livre qui a une valeur de 19,90 euros. Donc en réalité, si on ajoute 66 euros de défiscalisation plus 19,90 euros, la participation brute, sans compensation, elle est de moins de 15 euros.
Qu'est-ce que vous organisez d'autre comme événement, comment dire, en ligne, à distance, autour de cette exposition ?
Alors, actuellement, pendant la période de confinement, on a lancé des petites séries sur notre page Facebook, qui connaissent d'ailleurs un grand succès. Et la dernière publication de Guénoé, d'ailleurs, a beaucoup intrigué, puisque on y a parlé de l'interdiction de la galette à un moment donné. Donc, c'est à la fois surprenant, hein, pourquoi interdire la galette. Et donc, du coup, il y a une publication sur le sujet là, avec les documents qui nous permettent de dire qu'effectivement, il y a eu un enjeu sur le sujet là, à un moment où on se disait qu'elle pouvait être source de problèmes pour la santé. Or, on est aujourd'hui dans une période où la santé des gens est en cause. Donc, c'est une publication qui a eu un grand succès, et on en fait presque tous les jours, disons 3 à 4 par semaine, sous forme de petits feuilletons, de quiz, d'informations qui permettent déjà de mettre en appétit, je dirais, puisqu'on est sur la crêpe, mettre en appétit sur l'exposition qu'on espère ouvrir le 15 juillet. Donc, ça, c'est ce qui se passe actuellement. Autrement, on a été amené à annuler tous les événements qu'on avait programmés au printemps. Et donc, dès qu'on va pouvoir réouvrir, eh bien, on va se poser la question du report de ces événements, soit à l'automne, soit à l'année prochaine, en fonction des dispositions qui seront prises au niveau du gouvernement.
L'émission de la maison sur Radio